17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour de nous retrouver dans cette émission spéciale Grand Témoin consacrée à la commémoration au 60e anniversaire du 17 octobre 61. En compagnie de Dominique Sopo, bonjour Dominique,
bonjour.
Président des SOS Racisme, merci d'être là, et de Hakim Haddad, militant engagé, donc il est aussi concerné en tant que jeune Algérien et en tant que démocrate et en tant qu'amoureux de la démocratie tout court, par cet événement. Merci d'être là.
Merci de l'invitation.
Et puis, on aura Benjamin Stora dans un moment. Et je voudrais tout particulièrement dédier cette émission particulière à Nasser Ramdan, que vous avez bien connu, qui aurait été content d'être là, Dominique, hein, pour cette émission.
Oui,
Nasser Ramdan, qui était un militant vraiment engagé. Aussi à Mouloud Aounit, que tout le monde connaît, qui a fait du 17 octobre 61 une espèce de pierre angulaire, de pierre d'achoppement, peu importe comment on l'appelle, mais ça a été vraiment le combat de sa vie à Mouloud pour faire reconnaître tout ça, c'est le 17 octobre 61, puis aussi à Boualem Ben Khalouf qui nous a quitté prématurément pendant ces années Covid et qui a perpétué un peu la mémoire de Mouloud, mais en même temps toute cette dynamique du 17 octobre. Alors le 17 octobre 61, donc on en est au 60e anniversaire, et donc il y a un tas d'événements, il y a un tas de manifestations, il y a un tas de choses, on va en parler avec vous dans un instant. Mais peut-être on va prendre Benjamin Stora au téléphone, qui a eu la gentillesse d'accepter de participer à cette émission. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc Dominique, oui. Sopo et Hakim Haddad sont sur le plateau, ils vous écoutent,
oui.
Et... voilà,
oui.
Il vous salue. Oui. Benjamin Stora, le 17 octobre 61, 60e anniversaire. L'État français tarde un petit peu à reconnaître ce crime d'État. François Hollande avait déjà un petit peu fait un communiqué en reconnaissant certaines choses. On est loin encore de la reconnaissance du crime d'État parce que la classe politique française a toujours voulu plutôt reconnaître Charonne. Les manifestants de Charonne plutôt que le 17 octobre, c'est ça?
Bah, écoutez, déjà, on a fait un grand progrès depuis le moment où j'avais combattu pour cette reconnaissance, puisque je me souviens, dans les années 80, avec des amis d'ailleurs de Radio Beurre à l'époque, on avait constitué l'association avec Mehdi Lalaoui au nom de la mémoire, avec mon ami Khaled Melha, avec Samia Messaoudi, avec Nasser Khétan, bien entendu. Ouais. Et c'était il y a très longtemps, tout simplement pour faire connaître l'événement lui-même. Il fallait déjà le porter à la connaissance du plus grand nombre, c'est-à-dire du plus grand nombre de Français qui ne connaissaient absolument pas cette tragédie de la nuit du 17 octobre. Donc ça a été une grosse bataille qui s'est ensuite développée au moment du procès Papon. On voit jouer un grand rôle d'ailleurs Jean-Luc Elodi à l'époque. Donc nous avons mené cette bataille très longtemps, et donc ça aboutit effectivement au fait que le candidat François Hollande est allé sur le pont de Clichy pour jeter des fleurs sur le pont de Clichy, puisque c'est là que des Algériens avaient été jetés dans la Seine. Mais lorsqu'il a été ensuite élu président de la République, il n'était plus le candidat, donc il n'y a pas eu effectivement ce geste de reconnaissance très simple et clair de crimes de l'État commis à l'encontre des manifestants algériens.
Alors, est-ce que justement, à propos de ces manifestations et des morts, est-ce qu'aujourd'hui, on a un recensement exact des victimes, combien de morts, combien de blessés, et dans la suite, est-ce que éventuellement, à partir du moment où il y aurait une reconnaissance, on pourrait évoquer d'éventuelles indemnisations?
Alors, d'abord, le problème de la reconnaissance ne dépend pas du nombre de morts et de blessés, parce que déjà en soi l'événement est suffisamment grave, puisqu'il y a eu des fusillades en plein Paris dans la nuit du 17 octobre, et les chiffres exacts de morts, on peut toujours en discuter, c'est en grosso modo 200 morts qui ont été avancés par Jean-Luc Elodi, donc c'est quand même considérable, hein, plus des centaines de blessés et 12 500 arrestations en tout ça en une nuit. Ce qui nous autorise à dire, par l'ampleur des chiffres généraux, qu'il s'agit d'une organisation décidée par l'État. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement des gestes isolés de policiers racistes ou autres. Non, c'est une opération d'État Donc à partir de là, bien sûr, compte tenu de l'ampleur de la répression, il y a effectivement une reconnaissance politique à avoir, mais qui ne doit pas dépendre exclusivement du nombre de victimes. Ça, c'est la première chose. Et puis alors ensuite, bien sûr, il y a, moi je suis tout à fait favorable, au problème de la réparation, en fonction déjà des recensements qui ont pu être faits. Il y a déjà il y a des listes qui existent déjà, dont celle d'ailleurs qui avait été donnée par Jean-Luc Hennis.
Alors, Benjamin Stora, au passage, bien sûr, on salue Eli Kagan, ce photographe qui a pris les photos et qui a sorti de l'oubli un peu toute cette histoire. Et puis Jean-Luc Hennaudy, bien sûr, qui a fait un travail considérable sur le 17 octobre. Une question. Le 17 octobre 61 est issu d'une longue tradition de mobilisation de l'immigration algérienne, des Algériens de France. Et dans le mouvement national, cette immigration a joué un rôle important, à tel point que l'immigration était considérée comme une wilaya, hein, c'était la 7e wilaya, et elle a apporté beaucoup de choses à la Révolution, vous en avez beaucoup vous parlé. En Algérie, le pouvoir algérien a fait du 17 octobre la journée de l'immigration, mais refuse de considérer l'apport de l'immigration, sa contribution, voire son implication dans l'origine du mouvement national. Comment vous expliquez cette espèce de mise à l'écart de l'immigration? Parce que tout le monde sait que le nationalisme algérien est né dans le mouvement ouvrier algérien, au contact du mouvement ouvrier français, comme d'ailleurs le mouvement Viet Minh, Ho Chi Minh, a fait ses classes dans le mouvement ouvrier français au contact du Parti communiste, etc. Comment expliquez-vous cette espèce de mise à l'écart de cette donnée historique à laquelle vous avez contribué?
D'abord, et vous avez raison de souligner le fait qu'il y a une vieille tradition de mobilisation de l'immigration ouvrière algérienne, hein, dans le Front populaire en 1936. Ça, c'est très important. Les grèves ouvrières, comme la grande grève de Renault en 1947. Il y a eu aussi une fusillade contre les travailleurs algériens le 14 juillet 1953. Lorsque le cortège algérien manifestait avec la CGT, et qu'il y a eu une fusillade, et qu'il y avait plusieurs morts, de très nombreux morts algériens, place de la Nation, ce qui était un phénomène encore trop peu connu d'ailleurs, hein, ce qui est, puisqu'on parle beaucoup du, c'est normal, hein, du 17 octobre, mais il y a eu le 14 juillet 53 aussi, la police qui a tiré à balles réelles sur les cortèges algériens. Alors maintenant, pour répondre à votre question, ça fait partie, bien sûr, de l'histoire intérieure de l'Algérie, dans la mesure où beaucoup de dirigeants de la Fédération de France, du FLN, qui s'étaient engagés par conséquent pendant la guerre d'indépendance, ont ensuite été écartés du pouvoir pendant très longtemps. Je pense en particulier aux dirigeants politiques comme Ali Haroun ou Omar Boudaoud, qui étaient des grands responsables de la Fédération de France, et qui se sont, pendant de longues années, retrouvés dans l'opposition. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu, disons, une opposition algérienne en France, au pouvoir en place, qui fait que le récit national n'a pas été enrichi par l'apport de l'immigration. C'est en fonction des enjeux politiques de l'époque, c'est-à-dire des années 60, 70, 80, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, compte tenu de la mobilisation en France, notamment autour du 17 octobre, depuis de nombreuses années quand même maintenant, eh bien, le 17 octobre est devenu une date importante dans l'histoire intérieure algérienne. Mais ça, c'est récent, effectivement. C'est depuis quelques années.
Et donc, dernière question, c'est devenu aussi une date importante dans la vie politique et l'histoire française. Vous avez fait un rapport, de nombreuses préconisations. Nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, qui a une quarantaine d'années, et qui n'hésite pas à mettre un petit peu les pieds dans le plat. Il a parlé de crimes contre l'humanité lorsqu'il était candidat. Il a parlé tout récemment de rente mémorielle. Il a aussi reçu de jeunes gens d'origine algérienne, de deuxième, troisième, quatrième génération. Est-ce que vous attendez, du point de vue de vos préconisations par rapport au 17 octobre, est-ce que vous attendez un geste particulier? Est-ce qu'il est prévu qu'il fasse un geste particulier? Qu'est-ce que pourrait faire Emmanuel Macron du point de vue, peut-être, de la reconnaissance de ce qui est ni plus ni moins qu'un crime d'État?
Écoutez, oui, c'est dans mes préconisations sur le 17 octobre, bien entendu, parce qu'il faut parler notamment à la jeunesse algérienne ou d'origine algérienne qui est très nombreuse en France, qui a construit notamment son identité personnelle, familiale et politique sur cette histoire, sur cette bataille. Donc il faut effectivement, de mon point de vue, un geste de reconnaissance. C'est ce que j'ai préconisé, bien sûr. Ce geste de reconnaissance de ce crime voulu, organisé par l'État. Et donc c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, je ne suis pas aux responsabilités, comme on dit. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 jours maintenant, une semaine, je ne sais pas. Ça, c'est dans mes préconisations. Maintenant, tout dépendra de la mobilisation politique, intellectuelle, ou aussi des partis politiques français. Sur ces questions particulières.
En tout cas, merci d'être intervenu. Ce travail vous doit beaucoup et on ne le soulignera jamais. Merci mille fois d'être intervenu. À très bientôt, Benjamin, et encore une fois, merci. Alors, de retour sur le plateau avec Dominique et Hakim. Donc, on va dans un instant peut-être commenter ce qu'a dit Benjamin Stora et surtout revenir sur les initiatives que vous avez montées, que vous mettez en place pour le 17 octobre. À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, et surtout en compagnie de Dominique Sopo, président des SOS Racisme, et de Hakim Haddad, militant engagé qu'on connaît très bien. Dominique Sopo, le 17 octobre, SOS Racisme a voulu marquer le coup, a voulu marquer le 60e anniversaire. C'est quoi? Ça veut dire que la mémoire, c'est l'antidote du racisme? C'est comme ça que vous le voyez?
Alors, je ne sais pas si la mémoire est l'antidote du racisme, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des mémoires douloureuses et que lorsque l'on ne parle pas de certains passés, on laisse finalement les choses se dégrader, on laisse les rancœurs, les douleurs mariner, et on voit bien que ça produit des choses très particulières, et notamment au-delà même du 17 octobre 61, quand je vois aujourd'hui une élection présidentielle dans laquelle on a un personnage comme Éric Zemmour, Éric Zemmour est aussi, même si c'est rarement dit, un produit finalement dans cette haine, de ces fractures que la France a beaucoup de mal, manifestement, à discuter. Et donc, le 17 octobre fait partie d'un moment important, puisque je rappelle qu'en plein Paris, la capitale de la France, des personnes civiles sont tuées. On parle de 200 morts, des arrestations massives, des expulsions extrêmement importantes de gens qui n'ont jamais revu le sol de l'Hexagone.
On rappelle brièvement cette manif parce qu'on on l'avait pas fait avec Benjamin. C'était une manifestation pacifique, familiale, femmes et enfants. Le FLN à l'époque avait demandé à ce qu'il n'y ait même pas un canif, un couteau qui soit porté par les manifestants.
Globalement respecté de toute façon.
Et c'était une manifestation qui avait eu lieu pour protester contre
l'instauration illégale d'ailleurs d'un couvre-feu par la préfecture de police de Paris qui était engagé dans une lutte avec le FLN en région parisienne. Et qui, donc, avait instauré un couvre-feu, je rappelle, illégal, puisque quand on regarde le texte, c'est un communiqué de presse de la préfecture de police de Paris qui incite fortement les travailleurs algériens à ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Algériens étant français, il n'est pas possible légalement de faire une distinction entre les citoyens français non algériens et ceux qui seraient algériens, ce qui montre d'ailleurs toute l'hypocrisie sur laquelle est fondée, la relation de la France en Algérie, qui est bien considérée comme un territoire particulier et sa population considérée comme une population à part.
Oui, je me rappelle très bien, parce que moi j'étais gamin et on avait le couvre-feu, et quand on était dehors, tout de suite à 19h, on nous demandait de rentrer à la maison. Et tout le monde rentrait, on montait, donc il fallait tout de suite qu'on rentre. Et nous, on était insouciants, on jouait, des fois on passait l'heure du couvre-feu. Et il y avait des espèces de ratonnades, moi je les ai vues, je les ai entendues. C'était des gens qui venaient un peu de l'OAS et qui qui était en travers comme ça de la route, qui remontait les routes et qui était à la chasse aux ratons, la chasse à l'Algérien, quoi. Pour la petite histoire, j'ai vécu ça.
Parce que c'est une période de grande violence. On est quand même sur la plus grande ratonnade sur le territoire national actuel, parce que on va parler du territoire algérien où là il y en a eu des bien plus massives, notamment autour du 8 mai 1945 évidemment, et pendant la guerre d'Algérie, mais on est sur un des plus grands massacres de gens à raison de leurs origines en temps de paix en France. C'est quand même pas rien, et cette mémoire là il faut bien en faire quelque chose, il faut bien en dire quelque chose, parce que si on n'en dit rien, bah, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait que l'État est impliqué. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut dire les choses. Et par rapport à ceux qui expliquent que n'en parlons pas parce que ça entraîne les gens dans la victimisation, dans la rancœur, etc. Non, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on arrive à créer des espaces de parole, des espaces de reconnaissance, qu'on peut tous, collectivement, se projeter avec confiance et avec fraternité dans l'avenir. Quand on nie le crime, on ne peut pas être dans un contexte de sérénité. Et c'est bien pour cela que nous voulons qu'il y ait davantage de reconnaissance. Nous voulons aussi qu'il y ait de l'explication. Le 17 octobre, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et donc nous, on va avoir des jeunes aussi pour discuter de ça, pour remettre ça dans le contexte de la guerre d'Algérie, dans le contexte de la colonisation, pour expliquer comment on en arrive là et pour discuter de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette histoire-là, lorsqu'on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'on a forcément une relation.
Parce que ce qui est extrêmement d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ce qui est extrêmement intéressant avec votre démarche, c'est que, en tout cas, sous votre présidence, on ne va pas parler des présidences précédentes, mais SOS Racisme est attaché à faire reconnaître un peu toutes les mémoires, n'est pas engagé dans une concurrence des mémoires, autant sur l'esclavage que sur la Shoah, etc. Vous êtes très présent. Et c'est très intéressant parce que vous voulez un peu rassembler tout ce qui fait France, en fait, toute cette communauté de destin, et que finalement, le 17 octobre, il concerne le jeune Antillais, il concerne le jeune Juif, il concerne tout Français qui est là, parce que c'est aussi sa mémoire. Et je crois que c'est un élément à porter à votre crédit.
C'est un élément fondamental quand on parle de l'esclavage, quand on parle de la Shoah, quand on parle du colonialisme, quand on parle de crimes particuliers comme le 17 octobre 61, ça n'est pas que l'histoire d'un groupe. Alors évidemment, il y a des groupes qui sont davantage impactés parce qu'ils ont, familialement, ils sont issus de cette histoire. Okay. Évidemment, ceci étant, la question de la Shoah, ça m'interroge. La question de l'esclavage, ça m'interroge. La question du 17 octobre, ça m'interroge. Quand bien même, je ne suis pas juif, je ne suis pas moi-même descendant de l'esclavage et je ne suis pas d'origine algérienne. Bon.
Mais on est des enfants de la République et de 1789.
Et c'est la question de savoir, comment dire, ce que sont nos valeurs. Et lorsque l'on est porteur de valeurs, il n'y a pas de question de couleur de peau, de religion ou d'origine, parce que la France, ça doit être aussi une communauté de destin fondée sur des valeurs, fondée sur une éthique, et ce sont les valeurs de la France qui sont bafouées dans chacun de ces crimes. Et il faut avoir collectivement la conscience que la République est une belle promesse, mais c'est une promesse inachevée. Et dans l'inachèvement de cette promesse, il y a évidemment toutes ces failles, tous ces crimes passés et tout ce qu'ils ont légué, tout ce qu'ils continuent à produire aujourd'hui. Parce que lorsqu'on commémore, c'est une question surtout pour les vivants. On dit on va commémorer les morts, mais c'est toujours une question de vivant à la commémoration. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce passé pour avancer ensemble. Alors
c'est inachevé, mais dans le bon sens du terme. Comme la démocratie est jamais achevée, comme la République est jamais achevée, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans une quête permanente, dans une lutte permanente. Il faut la construire en permanence, l'équilibrer en permanence, la faire vivre en permanence, la revivifier en permanence. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un président de la République, Emmanuel Macron, qui tout à l'heure j'en parlais avec Benjamin Stora, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'Emmanuel Macron aujourd'hui?
Alors, nous, ce qu'on demande, c'est des choses, j'allais dire, très simples. C'est d'abord qu'il y ait une reconnaissance qu'on est sur un crime d'État, avec le fait de dire des responsabilités. Il n'y a pas de crime sans criminel. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Il y a une implication, évidemment, de ceux qui ont tué directement et qui appartenaient bien souvent à la police française de l'époque. Il y a la responsabilité de la préfecture, donc directement de l'État, la responsabilité du gouvernement de l'époque qui a couvert et en amont et pendant et après les crimes qui ont été perpétrés. Donc il y a des responsabilités, donc il faut les dire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental qu'Emmanuel Macron doit faire. Et je pense qu'il y a aussi le fait que l'État doit initier peut-être un travail de clarté sur le bilan. L'État n'a pas de bilan à donner de cette répression. Combien de morts exactement? Combien d'arrêtés exactement? Combien d'expulsés exactement? L'État n'a rien à dire sur le sujet. Eh bien, il faudrait qu'il dise quelque chose, y compris en mettant en place une commission d'historiens et d'historiennes, parce que quand même les faits sont assez massivement documentés, donc on peut arriver assez vite à une position de l'État avec les zones de flou, j'allais dire imparables, aussi longtemps après peut-être, mais que l'État assume ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, donc ce que l'on pourrait demander en quelques mots, même s'il y a d'autres demandes qui pourraient évidemment être faites.
Et à partir de là, on pourrait avoir des places ou des rues du 17 octobre, on pourrait avoir...
Il y en a déjà, qui sont inaugurées ces dernières années, il y en a déjà, mais effectivement, c'est comment on inscrit la mémoire dans nos représentations collectives.
Et scolaires, et éducatives.
Et scolaires et éducatives, évidemment, par une plus grande place faite à cette histoire-là, même si depuis 1983, la guerre d'Algérie est enseignée hein, dans les livres d'histoire. Mais il n'y a pas que la place qui est donnée dans les livres. Il y a aussi la position des enseignants. Parce que ce n'est pas évident de traiter d'une histoire qui est encore une histoire très chaude et qui traverse beaucoup de personnes à titre individuel. Et puis deuxièmement, il y a certes l'école, mais il y a aussi l'attitude des responsables politiques. On ne peut pas jouer avec cette histoire-là et tourner autour du pot, parce que quand on voit la vague réactionnaire dans laquelle on est, où on nous explique que dès qu'on parle de ces passés-là, on serait dans le repentance, dans le repentir. Moi, je suis athée, je suis ni pour la repentance, ni pour le repentir, ça ne m'intéresse pas en l'espèce. Par contre, la question de la vérité, elle est fondamentale. Personne n'a envie qu'il y ait de la repentance, du repentir, de je ne sais qui d'ailleurs, puisque les acteurs sont morts de toute façon. Par contre, la question de la clarté, de la qualification de ces faits ne peut pas être constamment repoussée avec des partis qui se taisent ou qui, au contraire, vont venir nous expliquer que ça suffit de parler de ça parce que ce serait faire grandir les jeunes dans de la victimisation. Les jeunes, on ne les fait pas grandir dans la victimisation. Reconnaître qu'il y a eu des victimes, c'est aussi la possibilité de faire en sorte que, justement, les gens ne se construisent pas en tant que victimes.
Et cette reconnaissance, c'est quelque chose qui, on en déplaise à tous les déclinologues, c'est quelque chose qui ne rabaisse pas la France, mais qui fait grandir la France.
Tout à
c'est
fait.
Le contraire.
Ah bah,
on se retrouve dans un instant pour parler de ce que vous proposez pour le 17 octobre.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Spécial 17 octobre 61, 60e anniversaire, commémoration, anniversaire, et Dominique Sopo est notre invité en compagnie de Hakim Haddad. Dominique Sopo, président des SOS Racisme. Alors vous avez voulu tout particulièrement monter deux grandes initiatives dont vous allez nous parler. Une l'après-midi du 16, donc la veille du 17, et une le soir du 16. Alors allez-y.
Oui, alors, évidemment, il y a aussi les initiatives du 17 le regard de Mehdi Lalaoui et la marche qui aura lieu le 17 octobre. Mais dans les jours qui précèdent, nous allons à la rencontre, nous avons commencé à la rencontre de jeunes sur lesquels nous parlons de ce 17 octobre en le remettant dans un contexte aussi historique pour comprendre, pour réfléchir.
Alors, ça se passera où, le lieu?
Alors, nous allons d'abord voir les jeunes dans les différentes villes où ils sont. Et le 16 octobre, nous serons à la mairie de Paris-Centre, où nous recevrons l'ensemble de ces jeunes qui, là, entendront des témoins de l'époque qui ont été directement acteurs de la marche du 17 octobre ou qui ont été les porteurs de cette mémoire. Et je pense notamment à Mehdi Lalaoui. Mais nous parlerons aussi avec des témoins qui sont des jeunes hein, on a appelé cette table des jeunes contre la guerre et des jeunes dans la guerre, des gens qui, jeunes à l'époque, se sont levés contre la guerre d'Algérie ou, se sont socialisés politiquement.
Donc c'est témoignage et transmission, c'est ça?
Oui, c'est témoignage et transmission, et ensuite nous discuterons avec les jeunes, ou nous ferons discuter les jeunes entre eux pour dire alors, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Tout ça, c'est l'après-midi.
C'est entrée libre,
16 octobre.
C'est entrée libre.
Alors, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que les places sont assez limitées et c'est assez réservé aux jeunes puisque c'est un peu l'idée avec toute une série d'intervenants dont Hakim, qui a beaucoup travaillé à les réunir, pourra parler dans quelques secondes peut-être. Et le soir, où là, ce sera libre, nous serons à proximité du Pont Neuf pour mettre en place une cérémonie dans des formes que nous sommes encore en train de discuter, puisque ça pose beaucoup de problèmes de faire des cérémonies en bord de Seine et sur les ponts, et peut-être lié au fait que ça concerne la police et qu'il faut demander les autorisations à la préfecture de
Paris. S'il pleut, s'il y a de la grêle,
Paris. Mais nous allons faire en sorte qu'il y ait une cérémonie sur laquelle nous serons fixés en début de semaine, visible dans l'espace public, pour que on dise ben voilà, en fait ici c'est à Paris que s'est déroulé, pas forcément les crimes qui se sont souvent déroulés en amont ou en aval sur les ponts, mais le centre de la décision politique, c'est bien Paris, et il faut que la capitale assume à un moment donné, que le centre du pouvoir politique assume ce qui a été fait, et que ce fleuve qui passe, cette Seine qui passe dans Paris, et qui pour beaucoup est un lieu de légèreté, de joie, de moments partagés, et bien que cette Seine a été aussi une Seine du crime. Et c'est ce que nous dirons à cette occasion.
Hakim Haddad, Dominique Sopo vient me parler de vous. Vous serez présent l'après-midi, vous allez témoigner l'après-midi, vous allez parler le 17 octobre. Donc pour vous, c'est très important de témoigner, de parler, de dire.
Oui, d'abord le 17 octobre, c'est pas que d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous le commémorons, que je participe à des commémorations. Je me rappelle que c'était dans les années 80 déjà, et je crois parmi les premières commémorations publiques, j'avais participé avec SOS Racisme déjà à l'époque à une petite manifestation qui s'était passée devant sur le bord de la Seine. Et effectivement, c'est un des sujets qui concerne notre histoire, qui concerne notre mémoire ou nos mémoires, qui me sont très chères effectivement, y compris peut-être aussi par ma double appartenance probablement franco-algérienne également, même si je ne le fais pas, bien sûr, comme le dit Dominique tout à l'heure, c'est pas juste parce que nous sommes algériens ou parce que nous sommes français, parce que ça concerne une question de l'humanité, quoi. Donc oui, pardon, je serai présent. D'abord, il y a quelques jours, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, il y a quelques jours, on était présent dans le cadre toujours avec SOS Racisme, le comité du 91 de l'Essonne, qui a organisé à Grigny même une initiative avec un des témoins, Monsieur Résigat, un des témoins, une projection de film et un débat qui a été suivi de débat. SOS Racisme, enfin, et moi-même participons, y compris à d'autres rencontres qui ont lieu, qui ont déjà commencé, vous le savez très bien, Nasser, depuis quelques jours, et qui vont monter crescendo. Donc effectivement, je suis pas mal investi sur cette question avec l'association. À la limite, c'est pas moi la question qui est importante de qui interviendra. Je pense que c'est bien d'en citer quelques-uns des séquences dont parlait Dominique Sopo tout à l'heure. Donc, parmi les témoins, il y a bien évidemment Mehdi Lalaoui, sans oublier Samia Messaoudi, bien évidemment, qui est dans le collectif et pas pour peu dans les manifestations qui vont avoir lieu et qui ont lieu, y compris par l'apparition de nouveaux livres. Il y aura également, donc, bien sûr, le très connu Rahim Rizi, le témoin qui était jeune, le témoin, le militant de l'époque et qui a participé à... Voilà, il y aura également une intervention enregistrée de personnes dont on parle trop peu, dont j'ai très peu entendu parler de ces dernières années, c'est effectivement les expulsés. Parce qu'on parle des morts, il y a de quoi, on parle des blessés, on parle de tout ce qui s'est passé ici, mais il y a des milliers, des centaines de personnes en tout cas, qui ont été expulsées et qui sont morts également là-bas parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas rejoint tout de suite leur domicile en Algérie. Ils ont été enfermés dans les camps, dans certains camps, jusqu'à l'arrivée du cessez-le-feu en mars. Donc on aura la participation, je préfère taire pour l'instant son nom, mais d'un monsieur, en tout cas natif de Tizi Ouzou, qui témoignera avec un enregistrement. Ça, c'est donc les témoignages de l'époque, ainsi que la deuxième séquence dont parlait Dominique Sopo tout à l'heure, donc un historien, Robbie Morder, pour ne pas le citer, bien évidemment Ali Cherki, et qui a joué un rôle, que ce soit pour le 17 octobre ou pour tous ce qui a concerné la libération de l'Algérie, et que je rappelle était l'assistante de France Fanon, Dominique Vallon et Jean-Jacques Oka, qui était président et à la direction de l'UNEF à l'époque, parce que il est important de dire aussi que c'est pas une histoire algéro-algérienne, et qu'il y avait également des jeunes natifs, des jeunes français qui ont participé, qui se sont investis, qui ont également payé assez cher et lourdement leur engagement pour l'indépendance de l'Algérie, ou en tout cas qui ont travaillé à dénoncer ces exactions qui sont commises à Paris. Donc voilà, moi je voudrais juste revenir brièvement, mais sur le travail de fond qui est fait, parce que ça va être un jour. Voilà, un jour, et il y a d'autres initiatives, il y aura également l'initiative du soir, qui est symbolique, mais et il y a d'autres initiatives, des conférences qui ont lieu en ce moment, etc., qui dureront jusqu'au 17 et même plus tard, avec plein de collectifs qui travaillent sur cette question, mais il faut aller au fond. Et il faut que cette parole, que ce discours, que ces visions soient partagées, soient entendues par les jeunes. Et c'est en cela que je trouve que l'initiative d'SOS Racine est importante, aussi importante que ce que les font les autres, mais originale dans le sens où, comme il essayait de l'expliquer tout à l'heure, Dominique, c'est d'aller en amont, avant l'initiative, avant de les regrouper le 16, d'aller dans les établissements scolaires, d'aller dans les maisons de jeunes, que ce soit à Paris ou dans les autres départements, c'est pas juste le 17 octobre, on a jeté des Algériens dans la Seine. Tout ça dépend d'un contexte de l'époque qu'il faut que ces jeunes-là, quelles que soient leurs origines, connaissent et un peu plus en profondeur, y compris parce que c'est leur histoire, et quand je dis leur histoire, je parle pas des franco-algériens mais des français tout court.
Et donc on rappellera jamais assez que d'abord que c'était pas que le 17 octobre, que c'est pendant tout le mois d'octobre, il y a eu tous les jours des ratonnades, tous les jours des gens jetés à la Seine, que le 17 octobre a été le point culminant puisque c'est le jour de la manifestation pour protester contre le couvre-feu, mais la Seine a charrié des cadavres bien avant le 17 octobre et bien après le 17 octobre, qu'on a interné des gens au fort de Vincennes, qu'on les a mis dans les prisons, et qu'en fait, à travers toute cette histoire aussi, c'est tirer la pelote de laine de toutes les exactions, de tout ce qui s'est fait autour de cette date. C'est pour ça que commémorer cette date, c'est important, Dominique Sopo.
Oui, c'est que, en fait, la commémoration, c'est aussi, si je vais dire, un prétexte, d'une certaine façon. Lorsqu'on commémore, c'est pour parler.
Pour faire remonter à la surface.
Pour faire remonter à la surface, hein, de façon mémorer, il y a quelque chose de la mémoire, évidemment, eh bien, c'est faire en sorte, justement, de rappeler, de notre point de vue, ce que vient de dire Hakim, le contexte. On est dans un contexte d'une guerre coloniale, et que, finalement, ce qui se passe ici, en plein Paris, le 17 octobre 1961, c'est aussi l'importation des méthodes qui sont déjà appliquées depuis longtemps, en Algérie même, hein, et on voit comment on est un territoire qui a été marqué nécessairement par cette question de son passé colonial, parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire « c'est terminé », parce qu'en fait, la situation coloniale, elle crée nécessairement des situations d'imbrication, et que c'est cette imbrication qui crée le fait que, ben oui, il suffit pas de dire « c'est terminé », parce que les grandes violences... on parlait tout à l'heure de l'esclavage et de la Shoah, le colonialisme est une grande violence, eh bien, pour que les sociétés l'absorbent et soient en sérénité par rapport à ce passé-là, ça prend du temps, n'en déplaise à ceux qui disent non, c'est terminé parce que nous avons décidé que c'est terminé. C'est pas comme ça que ça se passe. Les grandes violences, ça prend du temps à être digéré, ça prend du temps à être dépassé. Et pour le dépasser, hein, comme je dis souvent, quand on veut tourner la page d'un livre, il faut d'abord avoir lu la page ensemble. Si on n'a pas lu la page, c'est pas la peine d'essayer de la tourner parce que de toute façon, on y reviendra toujours.
En tout cas, ce que je retiens, en tout cas, de votre initiative, c'est quelque chose de très dynamique. C'est pas du tout quelque chose de figé. On n'est pas là pour faire des petits défilés tristes, etc. Et c'est qu'il y a une vraie dynamique dans votre événement. C'est quelque chose qui est de l'ordre, bien sûr, du plus jamais ça, mais qui va au-delà en disant il faut continuer à parler, continuer à l'entretenir. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. En tout cas, beaucoup de choses pour cette journée. Merci d'avoir accepté d'être venu sur le plateau de Beurre FM. Merci Dominique Soupeau. Merci Hakim Haddad.
Merci pour votre travail sur ces questions.
Merci à Benjamin Stora d'être aussi intervenu dans l'émission. À bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.